Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 22 Mordad, 1401 du calendrier iranien, 13 août 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi par un commentaire politique. Les États-Unis ne peuvent pas blanchir l'assassinat du général Soleimani en fabriquant des histoires sur John Bolton. Le pétrolier Lana, la preuve de la défaite de la piraterie américaine. En Irak, les partisans du cadre de coordination, à leur tour, en sitting à Bagdad. Avoir saisi, la Russie met en garde contre la fin de ses relations avec les États-Unis. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Un pétrolier battant pavillon iranien saisi par la Grèce en avril est en train de recharger sa cargaison de pétrole pour retourner en Iran. L'ambassade d'Iran à Athènes a annoncé la nouvelle, ajoutant que le pétrolier Lana partira bientôt pour l'Iran. Cela intervient après que la Cour suprême grecque a annulé une ordonnance antérieure de saisie de la cargaison. Le navire avait déjà été arrêté par les autorités grecques et sa cargaison de pétrole confisquée par les États-Unis fin juillet. Cela a déclenché des tensions avec Téhéran, qui a qualifié la coopération d'Athènes d'acte de vol. L'Iran a également arrêté deux pétroliers grecs pour des violations dans les eaux du golfe Persique. Avec le retour du pétrole volé du pétrolier Lana, une page controversée tourne dans les relations amicales de longue date entre l'Iran et la Grèce, aboutissant à l'échec des États-Unis dans une piraterie maritime contre les intérêts de la République islamique d'Iran. Les opposants aux religieux irakiens Muqtada al-Sadr organisent un rassemblement dans la capitale Bagdad, au milieu d'une impasse politique sur la formation d'un nouveau gouvernement. Les partisans du cadre de coopération ont déclaré qu'ils organiseraient un sitting indéfini tout près de la zone verte pour accélérer la formation du nouveau gouvernement irakien. La coalition a exhorté tous les partis à mettre de côté leurs intérêts personnels et à adhérer à la constitution du pays. Les manifestations surviennent deux semaines après que les partisans du mouvement sadriste ont pris d'assaut le Parlement et y ont lancé une manifestation à durée indéterminée. Les manifestants sadristes dénonce la candidature au poste de Premier ministre de Mohamed Shia al-Soudani, candidat du cadre de coopération, ont exigé de nouvelles élections anticipées. Sadr a remporté le plus de sièges lors des élections législatives 2021. Mais en juin dernier, il avait demandé à ses députés de démissionner après avoir échoué à former un gouvernement. Nombreux analystes irakiens ont mis en garde contre la possibilité que les agences de renseignement américaines et arabes exploitent la situation actuelle dans ce pays afin de semer la discorde en Irak, affirmant que les différends politiques peuvent être résolus par le dialogue. La Russie met en garde les États-Unis contre la saisie de ses avoirs, affirmant que les mesures possibles endommagera de manière permanente aux relations bilatérales. L'avertissement a été lancé par le chef du département nord-américain du ministère russe des Affaires étrangères. Toute saisie éventuelle d'action russe par les États-Unis détruira complètement les relations bilatérales de Moscou avec Washington, a-t-il déclaré samedi à l'agence TASS. Il a déclaré que les tensions dans les relations entre Moscou et Washington ne seraient dans l'intérêt d'aucune des parties. Le responsable russe a également déploré ce qu'il a décrit comme l'influence croissante des États-Unis sur l'Ukraine. Il a déclaré que les États-Unis se sont désormais transformés en un acteur direct dans le conflit ukrainien. Les relations restent tendues entre Moscou et Washington depuis que la Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine le 24 février. À la tête des pays occidentaux alliés de l'Ukraine, les États-Unis ont mené une campagne de pression, dont notamment via les sanctions contre Moscou. Les États-Unis se sont engagés à stimuler le commerce avec Taïwan, malgré les tensions avec la Chine concernant ses liens croissants avec le territoire insulaire. Washington envisage de dévoiler un nouveau plan commercial et d'effectuer des transits aériens et maritimes à travers le détroit de Taïwan dans quelques jours. C'est selon le coordinateur de la Maison-Blanche pour les questions Asie-Pacifique. Il a déclaré que les États-Unis réagissent à ce qu'ils appellent le comportement provocateur de la Chine à Taïwan. Il a accusé la Chine d'utiliser la récente visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, comme prétexte pour essayer de changer le statu quo de l'île. Taipei a salué les nouvelles promesses de Washington, prétendant que l'intimidation, dit-il, de la Chine a renforcé l'unité du camp démocratique mondial. La Chine revendique Taïwan comme son propre territoire et a mis en garde à plusieurs reprises contre les liens croissants de l'île avec Washington. Les tensions se sont intensifiées depuis que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s'est rendue à Taïwan au début du mois. Pékin est fermement opposé au soutien militaire et politique des États-Unis à Taïwan, affirmant que cela enhardirait les forces séparatistes. Pour le président chinois Xi Jinping, la question de Taïwan était née de la faiblesse et du chaos de la nation chinoise taïwanaise et qu'elle serait résolue lorsque le renouveau national deviendrait une réalité. Chers amis, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. We'll be right back. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que faire des histoires autour de la fausse histoire d'un complot visant à assassiner l'ancien conseiller américain pour la sécurité nationale, John Bolton, n'aidera pas Washington à blanchir ses propres crimes. Fabriquer des histoires concernant un élément politiquement en faillite, un terroriste connu et un comploteur de coup d'État contre des États indépendants est une tentative trompeuse des États-Unis pour échapper à leurs responsabilités internationales, a écrit Kanani dans un message sur son compte Twitter. De telles fanfares ne blanchiront pas l'image du régime américain, mais rendront les Iraniens et le monde plus irrités à son égard, a-t-il ajouté. Le département américain de la justice a accusé mercredi un homme identifié comme Shahram Pursafi d'avoir tenté d'organiser le meurtre de John Bolton en représailles à l'assassinat par les États-Unis du commandant antiterroriste iranien, le général Qassem Soleimani, en Irak en janvier 2020. Dans le dernier scénario, Pursafi a été cité comme membre du corps des gardiens de la révolution islamique qui aurait tenté de payer à des individus aux États-Unis en octobre 2021 une récompense de $300,000 pour mener à bien le complot à Washington DC ou dans le Maryland. John Bolton a été un fervent partisan de l'assassinat du plus haut général iranien, le martyr Qassem Soleimani. Il soutient également le groupe terroriste anti-iranien Organisation des Moudjahedines et Khalq, OMK, qui est tristement célèbre pour avoir fabriqué des scénarios en Europe et aux États-Unis pour incriminer les responsables iraniens. Le général Soleimani, commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, et son compagnon de tranchée, Abu Mahdi al-Mohandes, commandant en second des unités de mobilisation populaire irakienne, ont été assassinés lors d'une frappe de drone américain le 3 janvier 2020. Les deux commandants antiterroristes étaient admirés dans toute la région pour leur rôle déterminant dans la lutte contre les groupes terroristes, notamment Daesh. La frappe américaine près de l'aéroport international de Bagdad a été autorisée par le président de l'époque, Donald Trump. Dans une réaction antérieure à des complots présumés contre John Bolton, Kanani avait déclaré qu'en poursuivant leurs accusations sans fondement contre la République islamique d'Iran et leur politique iranophobe ratée, les autorités judiciaires des États-Unis, dans une nouvelle filature, ont porté des accusations sans fournir de preuves valables et la documentation nécessaire, a-t-il déclaré. De telles affirmations sans fondement sont faites avec des motifs et des objectifs politiques et constituent en réalité une fuite en avant, créant une ruse de propagande et surtout échappant à la responsabilité de répondre à de nombreux crimes terroristes auxquels le gouvernement américain a directement participé, comme le lâche assassinat du général Qassem Soleimani ou comme des crimes terroristes commis par le régime sioniste et des groupes terroristes comme Daesh.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre programme débat. Aujourd'hui, nous allons soumettre le sujet concernant les accords de Vienne, leurs négociations qui ont pris fin la semaine dernière. Et donc, les diplomates sont rentrés chez eux avec ce qui est appelé par Josep Borrell comme étant le texte final. Donc, beaucoup de choses sont intervenues durant ces négociations. Finalement, elles ont fini la semaine dernière. Est-ce qu'elles vont être signées par les différents partis, notamment on pense aux États-Unis, qui encore aujourd'hui lancent des rumeurs sur Internet et dans l'actualité afin de montrer qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec ces signatures. Jusqu'où va-t-on aller? Dans tous les cas, vous pouvez nous suivre, vous suivre le reportage qui va suivre concernant donc ce qui s'est passé cette année, ces dernières années concernant ces négociations, mais également un sujet vient derrière ces négociations, c'est l'énergie dans l'Union européenne qui arrive à sa pire existence puisqu'avec la guerre en Ukraine et les tensions avec la Russie, les choses se passent très mal en Union européenne concernant l'énergie, surtout à la veille d'un hiver qui s'annonce difficile pour les Européens eux-mêmes, les civils notamment. Suivez notre reportage, on se retrouve juste après.
Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a proposé un texte final aux partis pour parvenir à un consensus dans les négociations en cours sur le nucléaire iranien, a déclaré lundi un responsable européen. Au cours de ces 4 jours, nous avons travaillé sur ces questions techniques et aujourd'hui le haut représentant Borrell met sur la table le même texte, avec quelques améliorations pour ces questions techniques, a déclaré le diplomate européen qui a requis l'anonymat. Les parties au pourparlers vont maintenant examiner ce texte, a déclaré le diplomate, estimant qu'il s'agit du meilleur effort possible de l'UE pour parvenir à un compromis entre les parties. Soulignant que le texte couvre chaque aspect de l'accord, il a déclaré que la réponse des parties déterminera si un accord final est atteint ou non. Le texte proposé par Borrell ne sera pas modifié ni négocié, a affirmé le diplomate, ajoutant qu'il s'attendait à ce que le processus aboutisse très très vite. Les délégations américaines et iraniennes ainsi que les responsables européens quitteront Vienne lundi ou mardi, a noté le diplomate européen. Nous quittons donc Vienne parce que la négociation est arrivée à son terme. Nous avons achevé la négociation, nous avons produit un texte, a-t-il précisé, faisant référence au retrait unilatéral des États-Unis de l'accord, officiellement nommé Plan d'action global conjoint PGAC décidé par le président de l'époque Donald Trump en 2018, il a déclaré « Lorsque nous sommes arrivés ici, il y avait beaucoup de questions sur ce que nous pouvons faire pour que les États-Unis reviennent à une conformité totale avec le PGAC et ce que nous pouvons faire pour que l'Iran revienne au respect de ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire. » J'ai la ferme conviction que toutes les questions reçues, la meilleure réponse possible dans le cadre du PGAC, a-t-il ajouté. Après une pause de 5 mois, les négociations reprises jeudi dernier à Vienne pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien en trouvant un compromis entre les États-Unis et l'Iran.
Donc, comme vous l'avez entendu dans ce reportage, nous sommes donc à la fin de ces négociations à Vienne. Comme indiqué, un texte a été produit. Aujourd'hui, nous allons en discuter. Nous n'allons pas forcément discuter de la situation iranienne parce qu'à l'heure actuelle, en ce mois d'août 2022, les choses ont beaucoup changé entre les débuts des négociations à Vienne et aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons donc 2 invités qui vont parler de ce sujet. Monsieur Maître André Chami, sociologue, juriste international, étant impliqué dans plusieurs sujets déjà dans le Moyen-Orient, et Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne, également spécialiste des questions internationales, qui elle se trouve depuis Damas. Bonjour Maître André Chami et Madame Aïssa Armidani.
Bonjour. Bonjour à vous et merci de votre invitation.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau, de manière virtuelle, mais c'est toujours un plaisir. Je vous remercie d'intervenir. aujourd'hui sur le sujet donc de ces négociations de Vienne qui finalement, même si on pensait le contraire, sont arrivées à leur terme. Mais si on devait faire une reportation de les débuts des négociations et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Est-ce que Maître André Chamy, qu'est-ce que vous avez à en dire par rapport à ces changements? Qu'est-ce qui a réellement changé dans ces négociations de Vienne?
Je dirais, nous passons d'une surprise à une autre dans le cadre de ces négociations-là, qui durent depuis des années. Déjà pour arriver à l'accord sur le nucléaire en 2015, et puis ensuite le retrait en 2018, et depuis 2018 jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Il y aurait eu un retour simple à l'accord, on aurait compris, parce que quand l'une des parties d'une convention ou d'un accord se retire, de deux choses une, soit elle réintègre sa place dans un accord, et soit elle dénonce l'accord et à ce moment-là, elle demande sa renégociation. Ce que font les États-Unis, pourquoi? Parce qu'en réalité, ils passent toujours vers un jusqu'au-boutisme politique qui caractérise leur politique étrangère et ils passent par l'accord sur le nucléaire iranien pour faire parler leur jusqu'au-boutisme. C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut dans un premier accord, qu'est-ce qu'on fait? On le dénonce pour aboutir à un nouvel accord. Pourquoi un nouvel accord? C'est quelque chose d'abord sur le plan juridique qui pose problème et qui questionne tous les juristes, et notamment l'avocat que je suis. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, une fois que vous avez repris les négociations, là, vous avez repris des négociations, ça aboutit à une remise à plat de tous les points litigieux. Sauf que les Américains, ce qui est acquis, ils veulent le considérer comme acquis, mais ils veulent obtenir de nouveaux acquis, tout en tendant des pièges dans les négociations. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils avancent avec des points dits techniques, nous constatons systématiquement qu'il y a un piège derrière. C'est ce qui rend évidemment la partie iranienne beaucoup plus méfiante. D'ailleurs, la partie russe a eu, au mois de mars dernier, me semble-t-il, a eu à rappeler que le piège sur les points techniques en disant « on retire des sanctions, mais… » Et c'est ce « mais »-là qui posait des difficultés parce qu'on essaie de se servir des relations qui auraient pu exister entre l'Iran et la Russie pour remettre des sanctions à l'encontre de l'Iran. Et tout autre prétexte aurait permis à ce moment-là finalement d'anéantir l'accord, c'est-à-dire rendre l'Iran otage de l'accord, mais en même temps les Américains pouvaient reprendre toute sanction sous d'autres prétextes.
Les situations ont bien changé.
Gardiens de la Révolution.
Les situations ont bien changé entre le début des négociations de Vienne et aujourd'hui. L'Iran n'est pas l'Iran d'il y a ces quelques années. Est-ce que vous êtes d'accord, Madame Midani, concernant donc cette situation-là aujourd'hui? Le diplomate iranien est rentré au pays, mais il suffit de voir aussi le côté pression de l'Union européenne face à la demande de la signature, alors que les Iraniens, eux, prennent leur temps. D'ailleurs, les articles, les journaux iraniens n'ont pas montré de finalité réellement de la situation concernant Vienne, mais plutôt en disant « voilà, nous sommes rentrés avec le texte ». Alors que l'Union européenne, elle, a bien dit « c'est fait, c'est presque fini, on en est à la fin ». Est-ce qu'on ne voit pas donc un changement réel concernant cette diplomatie qui aurait changé, donc la puissance est partie d'une main à l'autre, ou bien là, la pression est sortie d'une main à une autre?
En fait, il y a différents niveaux par lesquels la situation a énormément changé. D'abord, la situation de l'Iran a changé, le rapport de force. L'Iran est aujourd'hui beaucoup plus fort parce qu'elle a commencé effectivement à enrichir l'uranium à des taux beaucoup plus importants. Elle a montré sa capacité à faire évoluer aussi son système nucléaire. Et puisque les États-Unis se sont retirés, elle s'est progressivement défaite de ses engagements en soulignant systématiquement que aussitôt que l'accord est fait, elle est prête et serait capable de revenir à la situation de l'accord. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la situation internationale a complètement changé aussi. La guerre que mène l'OTAN à la Russie en Ukraine et les sanctions qu'ils exigent de tous les pays qui sont liés aux États-Unis, en fait, contre la Russie, exigeant toujours d'interrompre les relations d'importation de gaz, etc. très vulnérable et les met dans une situation absolument invivable par rapport à la question de l'énergie. Et les États-Unis, exigés par les journalistes que les États-Unis n'ont absolument aucune solution alternative à proposer, à part gaz de schiste qui coûte énormément cher, qui est très polluant et qui n'est pas prêt d'arriver ni de pouvoir être exploité dans l'Union européenne. Or, en fait, dans ce fait, je dirais, les États-Unis, l'Union européenne se fait harakiri en appliquant les décisions américaines sur ses relations avec la Russie. Ce qui
Maître Chami, vous
que qui... Ils ont encore une demande plus pressante pour que cet accord ait lieu et qu'ils espèrent pouvoir être approvisionnés par l'Iran en matière de gaz et de pétrole.
Maître Chami, vous qui êtes à l'heure actuelle...
Dernier point que je voulais ajouter, je rappelle...
Excusez-moi. Maître Chami, vous qui êtes actuellement en France, donc à Mulhouse, est-ce que vous confirmez ces difficultés? Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, en France, on peut le percevoir. On n'a pas besoin d'être politicien ou économiste pour percevoir une vraie tension dans la population même, pas seulement politique. Est-ce que vous-même, vous confirmez ces tensions qui peuvent être constatées et qu'on voit dans la diplomatie européenne concernant lorsqu'ils s'en vont en Arabie Saoudite ou là, à l'heure actuelle, avec les accords de Vienne, qu'ils pressent à arriver à une véritable négociation pour que cette pression de l'énergie, qui est le mot-clé de toute cette histoire, cesse?
La situation est délicate sur le plan de la fourniture en énergie, ça c'est incontestable. À partir du moment où vous coupez de votre source d'approvisionnement, en l'occurrence de la Russie, il faut trouver des moyens de substitution. Aujourd'hui, ces moyens n'ont pas été trouvés. Alors les Européens, chacun là, ils redeviennent subitement individualistes. Chacun essaie de négocier avec ses partenaires habituels. Vous voyez celui qui va vers l'Algérie, le deuxième qui va partir vers la Libye, le troisième qui va partir vers d'autres pays. Mais en réalité, ils sont redevenus individualistes alors qu'au départ, ils étaient partis pour faire quelque chose de commun, s'approvisionner en commun pour mutualiser et les risques et les prix. Et c'est ce qui se passait avec la Russie. Aujourd'hui, comme ils ont brisé les relations avec la Russie, la Russie renvoie l'ascenseur et évidemment, ça les rend vulnérables et ça rend la situation beaucoup plus délicate. Et c'est ce qui implique à ce moment-là, évidemment, un empressement de leur part dans le cadre des négociations pour aboutir à quelque chose qui leur permettrait de remplacer ce qui s'est passé, c'est-à-dire le gaz et le pétrole russe par éventuellement l'arrivée de l'Iran. Mais les choses ne me paraissent pas suffisamment simples, en tout cas aussi simples que les Européens le pensent. Ce n'est pas parce que les sanctions devaient être levées demain que l'Iran va ouvrir tout de suite ses vannes en direction de l'Europe en disant « je vais abandonner mes partenaires habituels, c'est-à-dire la Russie, parce que j'aurai besoin du pétrole, des dollars ou des euros des Européens ». Il y a une erreur d'appréciation des Européens. D'ailleurs, Borrell lui-même, à mon avis, se trompe totalement dans son analyse. Et est-ce que là, à travers ces négociations-là ou à travers ces propositions-là, il joue le rôle de l'atlantiste? Parce que Borrell, il est plutôt pro-atlantiste, c'est-à-dire lui, il est adossé totalement à la politique américaine, ou il joue le rôle de l'Européen? Moi, j'ai des doutes par rapport à ses positions européennes, même s'il peut constituer, à travers sa présentation des choses, une sorte de purge, ne serait-ce qu'une purge psychologique, mais les choses ne seront pas aussi simples que cela, même si demain l'accord devait être obtenu ou signé. D'une part, les Américains ne donnent pas de gage de confiance parce que tous les jours, vous avez des annonces américaines et la dernière concernant, soi-disant, la tentative d'assassinat ou la volonté d'assassiner John Bolton, à cet instant-là, n'est pas anodin. Bien entendu, il y a une volonté de perturber tout le jeu et peut-être même de bloquer les négociations en disant « nous ne faisons pas confiance à l'Iran et nous ne faisons pas confiance aux gardiens de la révolution qui sont en train de remettre en cause la sécurité nationale, c'est-à-dire aux États-Unis, mais également la sécurité internationale parce que ça pourrait dégénérer ». Ces questions-là sont tous liées et il ne faut pas les négliger et par conséquent, il faut faire une analyse prudente et ce n'est pas parce que les Européens disent que on est arrivé à un accord, c'est apprendre à laisser, parce que la phrase qui a été utilisée depuis maintenant 4 ans, c'est apprendre à laisser, c'est apprendre à laisser, puis finalement c'est toujours à laisser, puisque prendre, ça veut dire prendre quoi? Ne pas prendre n'importe quoi, il faut prendre quelque chose qui va être rassurant et qui va être garanti par les puissances concernées, mais qui va être garanti sur le terrain par des actions économiques et politiques qui interdisent même toute sanction future à l'encontre de l'Iran, et non pas simplement ouvrir quelques comptes en disant bah, « on va vous donner quelques milliards, les quelques milliards qui vont être donnés vont être bloqués d'une manière ou d'une autre ». L'Iran n'est pas un enfant de cœur, si je me souviens ainsi, a eu à expérimenter les Européens et les Occidentaux en général, et par conséquent, l'Iran a le droit d'être méfiant par rapport aux Européens qui se sont toujours inclinés par rapport aux dictats des Américains, et a également raison de se méfier des Américains qui n'ont pas été un partenaire honnête et n'ont pas été un signataire loyal, et par conséquent, aujourd'hui, tout est sur le tapis de négociation et tout est sur la table de négociation. Et ce n'est pas parce que les Européens ont dit « on est arrivé à la fin » que vraiment c'est la fin.
Alors,
moi,
je
serais beaucoup plus prudent par rapport à cette question-là.
Pour revenir donc à ce que vous avez dit, donc le scandale qui depuis 24 heures est visible sur Internet, ça donne toutes les deux heures un nouvel article est produit, donc concernant donc cette rumeur de volonté d'assassinat de John Bolton, qui est toujours en vie, donc ce ne sont que des rumeurs et ce ne sont pas des faits réels, puisque John Bolton n'a pour l'instant été jamais attaqué. Donc ex-conseiller de Donald Trump, pas seulement, également un fervent opposant à l'Iran, à sa situation internationale. Donc, depuis 24 heures, on voit ça. Est-ce que, Madame Midani, vous ne trouvez pas que c'est encore une volonté, une preuve de volonté des États-Unis de montrer au monde entier qu'ils ne sont pas d'accord avec cet accord? Et donc, en tout cas, les négociations de Vienne, finalement, est-ce qu'ils ont vraiment abouti? Est-ce que ce ne serait pas un signe?
En fait, les États-Unis, ils sont partagés. Il n'y a pas une seule position aux États-Unis. Il y a deux positions, en fait, qui s'affrontent aussi. Il y a une position qui est pour que l'accord aboutisse, hein, et c'est la position des démocrates. En fait, rappelons quand même que sous Obama, et que c'était effectivement, et ça a été dénoncé par Trump par la suite, une fois il était au pouvoir. Donc, en fait, il y a une extrême division au sein de l'État profond déjà américain. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les deux parties sont toujours peurs et servant de l'État israélien, lequel Israël est parfaitement... cet état d'occupation sioniste de la Palestine, cet état, il est complètement opposé à ce qu'il y ait un retour à la signature sur le nucléaire iranien entre les États-Unis et les États-Unis, tout l'Europe et les États-Unis et l'Iran. Je voudrais rappeler quand même à cet effet que le dernier rapport de l'Agence de l'énergie à l'énergie a été complètement désavouant à la pratique ou les pratiques de l'Iran sous le conseil d'un responsable. Cette responsable est trouvée avant de conclure son... Alors que Israël n'est pas signataire de l'agence, en fait, n'est pas membre de l'agence et ne se soumet pas à ses contacts, ne se soumet pas à ses règles. Et voilà. Donc, on voit quand même qu'il y a systématiquement une volonté de nuire de la part de l'État israélien fantoche, et que ces par moment à éviter que le nucléaire ait lieu de cette frénésie européenne qui se manifeste aussi par toutes les pressions qui se... Et pour que l'État d'occupation sioniste puisse exploiter les gisements libanais et palestiniens qui sont en mer Méditerranée. Ils prétendent avoir le droit, alors que légalement, ce sont quand même des puits qui sont au large de la Palestine occupée et que l'occupant n'a pas le droit d'utiliser et d'exploiter ses ressources, mais ils sont en train non seulement de vouloir les exploiter, mais ils prisent les gens libanais. Et là, les États-Unis font une pression monstrueuse sur l'État libanais. Aussi, de ce côté, je voudrais rappeler quand même l'histoire de l'explosion du port, etc. Et donc, et plus Liban, tout ceci va dans le même sens. Et aujourd'hui, l'empressement aussi, c'est Israël veut se présenter comme étant le fond d'énergie de l'Europe.
Donc, encore une fois, là. Donc, encore une fois, là, en matière de droit international, qui est rarement respecté ces derniers temps, en tout cas pour le sujet du Moyen-Orient, c'est même flagrant. Oui. Chaque décret, chaque traité est violé. Maître André Chami, vous-même qui êtes juriste international, est-ce que vous pensez que l'avenir pour les Européens et pour les Américains va aller vers l'avant? Parce qu'à l'heure actuelle, les Iraniens ont signé beaucoup de contrats avec des compagnies pour améliorer leur gaz, le GPL, pour améliorer leur infrastructure, des contrats qui étaient censés être signés grâce à l'accord nucléaire, puisqu'ils ont été caducs une fois que l'accord a été cassé par les Américains. Il faut rappeler Bouygues, il faut rappeler Total, il faut rappeler d'autres sociétés qui avaient réellement signé avec les Iraniens. Est-ce qu'à l'heure actuelle, les Européens ont quelque chose à gagner outre l'énergie? Est-ce qu'ils n'ont pas vraiment perdu un énorme marché que reprend pas seulement l'Iran, mais le Moyen-Orient lui-même? Puisqu'on pense à la Syrie, à l'Irak, on pense également au Liban, on pense vraiment à tout le Moyen-Orient à l'heure actuelle.
Les Européens ont perdu beaucoup plus important que tout cela, c'est le crédit. Parce que quand vous perdez votre crédit, vous êtes plus crédible dans toute négociation, dans tout accord. Parce que vous négociez avec quelqu'un et vous signez un contrat et vous ne le respectez pas, évidemment, vos partenaires, en tout cas, profitent de vous. Quel qu'il soit, et à plus forte raison quand il s'agit de commerce d'État à État. Et nous sommes actuellement dans ce puisque en réalité les Européens et les Occidentaux ne respectent pas ou peu leurs engagements et ont hypothéqué leurs décisions politiques et économiques à la politique américaine ou aux décisions américaines. Et à partir du moment où vous perdez votre souveraineté, vous perdez l'essence de l'expression de la volonté de votre peuple. La volonté de votre peuple, c'est quand vous lisez un président, il doit s'exprimer au nom de son peuple et dans l'intérêt de son peuple. Or, les Européens ont laissé la politique étrangère, la politique de défense aux Américains. Ce qui a été rappelé par Trump et ce qui continue d'être rappelé par Biden, mais par d'autres, dans d'autres langages. Mais le sens est toujours le même. Vous avez besoin de nous pour vous protéger et vous avez le problème ukrainien, entre guillemets, est venu pour le rappeler parce qu'il a fallu dépêcher les aides américaines sur place pour montrer que sans nous, la Russie serait arrivée à Paris, alors que la Russie n'a pas l'intention de venir à Paris. Mais à partir du moment où vous inculquez cette notion dans l'esprit des Européens, évidemment, vous créez une situation de peur et cette situation de peur justifie que l'on vous impose des diktats, et c'est le cas aujourd'hui des Européens. C'est-à-dire, vous perdez votre décision sur le plan politique, mais vous perdez votre décision sur le plan économique, sur le plan militaire. Vous n'avez même plus de puissance militaire européenne capable de défendre l'Europe.
Et c'est sur ces mots.
La France peut continuer de dire qu'elle est une preuve puissance nucléaire, mais sur le plan de l'armée classique, la France a beaucoup perdu et ne peut plus correspondre aux défis actuels.
Je vous remercie, Maître André Chami. Je vous remercie, Madame Midani, d'être intervenue aujourd'hui dans notre sujet de débat. Merci d'avoir exploré le sujet avec nous. Moi, je vous dis au revoir. Le débat finit maintenant et je vous dis à la prochaine fois. Donc, nous avons fini notre débat avec nos deux invités, Madame Midani et le Maître André Chami. Concernant ce sujet, on a notamment vu la situation iranienne, mais surtout la situation de l'Union européenne face aux volontés des États-Unis et derrière cette volonté des États-Unis, l'envie de pousser une entité sioniste à négocier son gaz au meilleur prix. Donc, nous en avons fini aujourd'hui. Je vous dis donc à la prochaine fois pour un autre sujet dans notre programme Débat sur Presse TV Français.
Très chers amis auditeurs, bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Le satellite iranien lancé par la Russie agit sur la navigation missile. Le satellite iranien Khayyam a été lancé et mis en orbite ce mardi 9 août 2022 depuis la station spatiale Baïkonour au Kazakhstan. En raison de son poids important, 600 kg, son lancement a été pris en charge par l'agence spatiale russe à l'aide de la fusée Soyouz. Le satellite Khayyam n'est pas le premier satellite iranien lancé par la Russie. En 2005, le satellite Sina 1 avait également été lancé par l'agence spatiale russe. Une heure après le lancement, Khayyam s'est séparé du missile porteur et s'est installé sur une orbite circulaire à une distance de 500 km de la Terre. Des sources officielles iraniennes affirment que les données transmises par le Khayyam sont utilisées à des fins civiles, telles que l'amélioration de la productivité dans l'agriculture, la surveillance des ressources en eau du pays, la gestion des risques naturels, la surveillance des changements d'utilisation des terres, les constructions illégales, la lutte contre la déforestation, la surveillance des risques environnementaux, des mines et des explorations minières et des frontières du pays. Le ministre iranien des Communications et des Technologies de l'Information, Issa Zarepour, a considéré l'événement comme un tournant dans la coopération spatiale entre les deux pays Iran-Russie. Pour sa part, Yuri Borisov, directeur général de l'agence spatiale fédérale russe Roscosmos, a également qualifié le lancement du Khayyam d'étape historique dans les relations entre l'Iran et la Russie. Moscou et Téhéran ont établi une étroite coopération au cours des dernières années ont récemment exprimé leur intention d'accroître cette coopération face aux sanctions occidentales. La coopération stratégique entre les deux pays, notamment dans les domaines militaires et spatials, n'est pas du goût de l'Occident. Les États-Unis et leurs alliés accusent l'Iran de travailler au développement de son programme de missiles spatial qui contreviendrait aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Première transaction iranienne en crypto-monnaie. L'Iran a passé cette semaine sa première commande d'importation officielle en utilisant la crypto-monnaie, une décision qui porte un nouveau coup au régime des sanctions américaines. La commande, d'une valeur de 10 millions de dollars, était une première étape pour permettre au pays de commercer via des actifs numériques qui contournent royalement les sanctions US et partant le dollar et de commercer au mépris de Pax Americana ciblés par les sanctions américaines comme la Russie. D'ici fin septembre, l'utilisation des crypto-monnaies et des contrats intelligents sera largement utilisée dans le commerce extérieur avec les pays cibles, a déclaré un responsable du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce iranien sur Twitter. Les États-Unis imposent un embargo économique presque total à l'Iran, y compris une interdiction de toutes les importations, dont celles en provenance des secteurs pétroliers, bancaires et maritimes du pays, un embargo qui a débouché sur davantage de ventes de pétrole iranien. Téhéran est l'une des plus grandes économies à avoir encore adopté la technologie de crypto-monnaie, née en 2008 en tant qu'outil de paiement visant à miner l'arme de sanctions. le Hezbollah frappe Israël. Le dimanche 7 août, Israël a lamentablement capitulé face à un djihad islamique qui n'a usé que 950 roquettes et missiles tirés en deux jours. Le mercredi soir, c'est une zone industrielle de Sderot qui est partie en fumée. Ce jeudi, c'est un drone israélien qui a été intercepté au-dessus de la vallée occidentale de la Beka au Liban. Les canons de défense du Hezbollah à l'ouest de la Beka ont tiré vers une cible qui était un drone appartenant à l'armée de l'air israélienne. Le réseau d'information Al-Rotz Al-Arbaliya a publié les images du moment du tir vers le drone israélien au-dessus de la ville de Midun, située à l'ouest de Beka au Liban. Et ce vendredi 12 août, cinq jours après que l'aéroport de Tel Aviv a été visé par des missiles du djihad islamique, c'est une fuite de gaz chlore qui a provoqué l'annulation de vol. Les médias israéliens ont rapporté vendredi matin qu'une substance toxique avait été déversée à l'aéroport international Ben Gurion. À Rots occupé, un bus a attaqué des colons vendredi. Le bus a renversé une foule à Rots occupé, faisant 5 morts et plus de 20 blessés. Des sources sionistes prétendent que l'accident n'était pas intentionnel. Les médias israéliens disent que les récents acquis du mouvement du djihad islamique de la Palestine sont un avertissement pour Israël et ne peuvent être ignorés. Ils soulignent que les mouvements du Hamas palestinien et du Hezbollah libanais ont des capacités qui sont des centaines de fois supérieures aux capacités du djihad islamique. Les médias israéliens ont tiré la sonnette d'alarme sur une confrontation multifrontale et sur une ignorance des capacités militaires du Hamas, du Hezbollah et du djihad islamique. Dix-sept enfants palestiniens ont été tués en martyr par les forces militaires du régime sioniste. Un jeune palestinien est décédé des suites des blessures qu'il a subies lors de la dernière attaque israélienne contre la bande de Gaza, portant à 49 le nombre de morts des frappes aériennes du régime de Tel Aviv contre la bande de Gaza. Anas Khaledan Chassi, âgé de 22 ans, a succombé à ses blessures au complexe médical de Nasser dans la ville de Khan Younes, où il a été emmené pour les soins médicaux nécessaires, a rapporté l'agence presse officielle palestinienne Wafa, citant des sources médicales. Anchassi a été blessé par une frappe de drone israélien à l'est de Khan Younes. Il a ensuite été transféré à l'hôpital et a été déclaré mort vendredi 12 août. De même, une fillette palestinienne de 10 ans est décédée des suites de ses blessures jeudi, portant à 17 le nombre d'enfants tués lors de l'agression israélienne, selon le Croissant Rouge palestinien. Nos équipes travaillent pour transporter le corps de Liane Al-Shaïr après qu'elle est morte des blessures qu'elle a subies lors de la récente agression contre Gaza, a déclaré l'organisation humanitaire. Shaïr et deux autres enfants ont été transférés quelques jours plus tôt à l'hôpital Al-Makassid à Al-Rotz pour des soins médicaux via le passage d'Erez par un membre d'équipage du Croissant Rouge. Elle est arrivée à l'hôpital mardi dans un état de mort clinique à la suite de blessures causées par des éclats d'obus à la tête d'un missile israélien, a indiqué dans un communiqué l'hôpital Al-Makassid, diffusé par l'agence de presse palestinienne Wafa. Nasser Allah met en garde les pilleurs du gaz et du pétrole yéménite. Le général de brigade Yahya Sari, le porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré que le manquement à la promesse et la trahison de la coalition saoudienne entraîneraient la riposte ferme de la résistance yéménite. Il a fait ce commentaire lors de l'organisation du défilé militaire des soldats récemment diplômés de l'armée yéménite, tenu le jeudi 11 août, en présence de Mahdi al-Mashat, le chef du Conseil politique suprême du Yémen, et d'autres hauts responsables yéménites. Le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi al-Mashat, a fait état du progrès spectaculaire de l'armée yéménite malgré les dégâts causés par les attaques de la coalition saoudienne avant de menacer les conspirateurs contre le Yémen d'un châtiment sévère. Il a ajouté que l'ennemi agissait contre le Yémen avec diverses tactiques religieuses, sectaires et raciales, mais la confiance de la résistance yéménite dans la vigilance de la nation yéménite leur ferait défaut dans la mise en œuvre de leur plan. Le pillage des richesses du Yémen par la coalition saoudienne entraverait le développement du pays et le paiement des salaires des employés yéménites. Le peuple yéménite ne restera pas les bras croisés face à ce pillage de ses ressources, a encore martelé Mahdi al-Mashat. Les déclarations d'al-Mashat sont faites après que la résistance yéménite a pu piéger la coalition saoudienne dans une guerre d'usure et changer les équations de force en sa faveur en développant ses capacités de missiles et de drones et en utilisant des tactiques de combat asymétriques. Alors qu'un grand nombre de civils yéménites, dont des femmes et des enfants, sont morts à la suite des bombardements de la coalition américano-saoudienne au Yémen, le département d'État américain a demandé dans un communiqué aux pays donateurs de remplir immédiatement leurs engagements passés pour le bénéfice de la nation yéménite. L'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grundberg, a affirmé que les parties en lice au Yémen avaient accepté les termes de l'accord initial pour prolonger le cessez-le-feu, conclu le 2 avril, de 2 mois supplémentaires jusqu'au 11 août, soit une troisième prolongation de la trêve US acolyte résistance yéménite conclue à Mascate. Voilà, si s'achève ce programme, merci de votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine.